Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Allô Internet, aujourd'hui j'arrive avec une histoire de disparition mystérieuse. Encore une fois, une disparition qui a eu lieu aux États-Unis. C'est une histoire qui me rappelle énormément la disparition de Kristen Smart. Vous allez voir que c'est très très semblable. Ça a été l'une des disparitions les plus médiatisées aux États-Unis, presque au même titre que Maura Murray ou Natalie Holloway. D'ailleurs, on a souvent comparé la disparition de Lauren Spier à celle de Natalie Holloway et à celle de Kristen Smart. Deux femmes disparues que j'ai souvent parlé dans mes vidéos, surtout récemment, on dirait que j'en ai beaucoup parlé. C'est à peu près le même prémisse, et d'après moi, le fait que ça soit deux belles blondes, deux jeunes étudiantes qui disparaissent, ça a énormément aidé à leur couverture médiatique. La disparition de Lauren Spier, comme je vous dis, super médiatisée, à peu près connue partout aux États-Unis. Ça fait que c'était une question de temps avant que je m'embarque dans cette histoire. Mais voilà, donc j'espère que vous êtes prêts. Écoutez le podcast Over and Out. Donc, nous avons Lauren Spier, qui est née le 17 janvier 1991 dans l'État de New York. Ses parents sont Charlene et Robert. Au moment de sa disparition, Lauren a 20 ans et elle étudie à l'université Indiana University. Elle étudie en commercialisation de la mode. Ses parents sont de New York, donc vivent à New York, et Lauren vit dans les dorm rooms, dans les dortoirs de l'Université de l'Indiana. Honnêtement, Lauren était pas mal responsable, très responsable même. Bon, ça reste une jeune fille de 20 ans qui vit sa jeunesse, mais c'est une fille super studieuse. Elle était très active dans la communauté juive de son université. Sa religion était assez importante pour elle, ça lui tenait vraiment à cœur. Même que durant le dernier spring break, au lieu d'aller faire la fête à Miami ou à Cancun, elle avait préféré aller en Israël pour planter des arbres, c'était comme du bénévolat. Fait que ça montre à quel point elle est responsable et elle veut donner au suivant. Lauren a un petit ami, Jesse Wolfe. Ils s'étaient rencontrés quelques années plus tôt dans un camp d'été. Un petit détail important à préciser, depuis toute sa vie, Lauren a un petit problème de cœur, fait qu'il faut qu'elle fasse attention à ça. Je pense que... bon, c'est pas très grave, là. Je pense pas qu'elle puisse en mourir à son âge, mais il faut quand même qu'elle surveille ça. L'histoire commence le 2 juin 2011. Lauren décide d'aller faire la fête en ville. Elle est accompagnée de son ami David Run, qui est un autre étudiant de l'université qui vit dans le même building qu'elle. David Run est aussi de New York. Lui, il étudie dans une école pour riches dans le Upper East Side. Et les deux s'entendent assez bien parce que les deux, évidemment, ils viennent de New York, mais aussi ils vivent dans les mêmes résidences universitaires. Donc, David et Lauren ont quitté leur building ensemble pour aller faire la fête vers minuit et demi. Et ils se sont rendus à quelques rues de là chez d'autres amis qui habitaient pas trop loin. Donc, ils sont allés chez leur ami Jay Rosenbaum. Et chez Jay, il y avait aussi le voisin de Jay, Corey Rossman. Puis on va parler de eux un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Vers 1h46 du matin, Lauren et Corey ont décidé de se rendre au bar sportif pas très loin de là. Ils sont allés à pied, c'était encore là à quelques rues. Ils sont allés au Kilroy's Sports Bar et ont pu rentrer dans le bar grâce à une fausse pièce d'identité parce que Lauren est encore mineure aux États-Unis, elle avait 20 ans. Le bar est largement fréquenté par des étudiants, c'est un bar à deux étages, c'est pas un petit pub sportif, c'est un bar avec la musique assez forte et c'est juste des étudiants qui vont là parce que c'est à côté des résidences universitaires. À ce point, David Run était déjà rentré chez lui, fait que ce n'est pas un suspect dans l'affaire, même qu'on l'a vu sur les caméras de surveillance de son building en train d'entrer chez lui et de ne pas ressortir. Toute la soirée, Lauren textait son petit ami, Jesse, qui n'était pas sorti avec elle cette soirée-là. Il avait préféré rester chez lui pour faire des devoirs, mais il se textait toute la soirée jusqu'à 2h30 du matin quand lui s'est couché, fait que là, ils ont arrêté de se texter. À 2h27 du matin, Lauren a décidé de quitter le bar sans son téléphone et sans ses chaussures. Puis j'étais comme genre « What? Comment tu peux quitter le bar sans tes chaussures? » Mais en fait, le bar Kilroy avait comme une terrasse extérieure avec du sable, comme sur une plage, là. Fait qu'il y en a beaucoup qui enlèvent leurs chaussures pour être pieds nus dans le sable et elle les a oubliées à cet endroit. À ce point-là, Lauren est assez intoxiquée, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a oublié son téléphone et ses chaussures, deux choses que normalement tu oublies pas. On l'a vu tomber à plusieurs reprises durant la soirée. Elle marchait, elle tombait, elle se relevait en riant. Il y a même un passant qui l'a vu dans la rue et il a vu à quel point elle était saoule, puis il a demandé si elle était correcte. Donc, ce passant se rappelle, il a même été un témoin là, dans sa disparition. Du bar, Lauren est rentrée chez elle avec son nouvel ami, Corey Rossman, qui était le voisin de son ami à la base. Là. Et Lauren était juste à 2 minutes de marche du bar, donc c'était pas très loin. Donc, qui est Corey Rossman? C'est un autre étudiant du Indiana University. Lui, il vient de Boston et ça fait seulement quelques jours qu'ils se connaissent. Donc là, c'est assez étrange. Il y a environ 2h30, Lauren et Corey arrivent dans le building de Lauren. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au 5e étage où est situé l'appartement de Lauren. Donc, ils sortent de l'ascenseur. Et là, en marche, dans le corridor, là, en route vers l'appartement de Lauren, il y a quelqu'un qui est comme sorti de nulle part, qui a frappé Corey au visage et qui est parti en courant. Et suite au coup de poing, Corey était genre vraiment mal en point et était assez désorienté. Après 12 minutes, Lauren a quitté son appartement. Encore une fois, elle était pieds nus. Donc, elle est rentrée chez elle, mais elle n'a pas pris le temps de prendre des nouvelles chaussures, ce qui est assez étrange. Mais encore là, si elle est complètement saoule, je pense que c'était le moindre de ses soucis. À 2h51, on a vu Lauren sur les caméras de surveillance qui marche comme en direction d'un genre de terrain vague. Là, c'est un terrain près de ses résidences qui est complètement vide. D'ailleurs, c'est dans ce petit corridor qu'on a retrouvé le sac à main de Lauren et ses clés qui avaient été abandonnées. Par la suite, Lauren et Corey sont allés à l'appartement de Corey. Quand ils sont entrés, il y avait le colocataire de Corey, Michael Beth, un autre étudiant de l'université qui n'était pas sorti cette soirée-là parce qu'il avait des devoirs aussi. Corey était complètement saoul et probablement knocked out du coup de poing mystérieux qu'il avait reçu. Il titubait et avait de la difficulté à se tenir debout et droit. Il allait pas bien, là, du tout. En montant dans sa chambre, Corey aurait vomi sur le tapis. Donc, c'est Michael, son colocataire, qui a dû l'aider à se mettre au lit. Lauren était toujours là, encore une fois, complètement intoxiquée. Et Michael lui a dit, ben, tu devrais rester couché sur le sofa. C'est pas prudent pour toi de retourner chez toi toute seule à cette heure-là. Mais Lauren voulait rien entendre, elle voulait retourner chez elle. Là, il est environ 3h30 et Michael appelle son voisin Jay Rosenbaum, que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui était lui, en fait, l'ami de Lauren. Puis il dit, là, ton amie Lauren est chez nous, elle est complètement saoule, elle veut rentrer chez elle, je veux pas la laisser partir, est-ce que tu peux venir t'en occuper? Mais Lauren voulait rien entendre, tu sais, elle poussait Michael, le gars qu'elle venait juste de rencontrer, à boire avec elle, puis lui, il était là, je suis vraiment pas dans le mood, j'ai passé la soirée à faire des devoirs, j'ai pas envie de boire avec toi, genre, peux-tu t'en aller, s'il te plaît? Lauren a finalement accepté d'aller chez Jay, qui était le voisin de Corey et Michael. Jay, c'est son ami depuis quelques temps. Jay a remarqué que Lauren, elle avait comme un bleu ici en dessous de l'œil. Il a demandé comment elle s'était fait ça. Lauren n'avait aucune idée. Elle s'en était même pas rendue compte. Et tu sais, elle était tellement tombée plusieurs fois durant la soirée. Peut-être qu'elle s'est cognée. Puis bon, c'était rien de grave. Mais bon, elle avait un petit bleu ici. Chez Jay, Lauren a fait 2 appels. Un à son ami David, qui a ignoré l'appel. Ben, il était couché. Et un autre appel, on sait pas à qui elle l'a passé, mais il y a personne qui a répondu. Vers 4h30 du matin, Lauren a fini par quitter l'appartement de Jay pour marcher jusqu'à son appartement à elle. Et c'est la dernière fois qu'on a vu Lauren, elle n'est jamais rentrée chez elle. Le 3 juin, donc le lendemain, Jesse appelait sans arrêt sur le téléphone de Lauren et il est assez inquiet parce qu'elle répondait pas. En fait, il lui avait pas parlé depuis la veille vers 2h30 du matin quand il s'était couché. Et Lauren avait toujours son téléphone avec elle, donc c'était pas dans ses habitudes de ne pas répondre. Finalement, après plusieurs appels, il y a un employé du bar qui a comme répondu au téléphone et il a dit « Ah ouais, la fille, elle a oublié son téléphone ici hier soir. » Donc c'est pour ça qu'elle répondait pas parce qu'elle n'avait pas son téléphone. Plus tard dans la journée, Jesse est allé rejoindre la coloc de Lauren qui s'appelle Adar Tami. Elle lui a donné la clé de l'appartement pour qu'il puisse entrer et aller voir si Lauren y était ou si elle a laissé des choses personnelles. Comme de fait, elle n'y était pas, donc c'est à 16h30 qu'on a reporté la disparition de Lauren. C'est Rebecca, la sœur de Lauren, qui a appelé Charlene et Robert, ses parents, pour leur dire que les amis de Lauren venaient juste de la reporter comme disparue. Ses parents étaient même pas au courant.
We were eating dinner and Robbie, the phone rang. I went to answer the phone and Robbie said, Char, Lauren's missing. So, it's really heart-stopping, you know?
Donc Robert, le père de Lauren, a appelé Jesse, son petit ami, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Jesse était déjà au poste de police en train de signaler la disparition de sa petite amie. Pendant ce temps-là, les parents de Lauren ont appelé tous les hôpitaux du coin pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait admis Lauren. Dès le lendemain, les parents de Lauren sont arrivés en Indiana pour commencer les recherches. C'est dès le 4 juin, donc même pas 48 heures plus tard, que les recherches officielles ont commencé et que les médias se sont emparés de cette histoire. Grâce à la médiatisation de l'affaire, on a recueilli plusieurs témoignages très intéressants. Par exemple, il y a le manager d'un bar du coin qui aurait vu un homme mystérieux en train de prendre une femme intoxiquée par-dessus son épaule comme ça. Au Québec, on dit comme une poche de patate, là, mais il l'aurait pris comme ça. On l'aurait vu dans les rues, pas loin de l'appartement de Lauren. Et la description qu'on a faite de cette jeune femme intoxiquée ressemblait beaucoup à Lauren. Ça se peut vraiment que ça soit pas elle, parce que Lauren habitait à côté d'un bar, fait qu'il y en a quand même beaucoup des jeunes femmes saules blondes qui ressemblent à Lauren. Mais bon, c'est vraiment intéressant comme témoignage. Et aussi, le manager aurait vu ça à 3h38 du matin environ, et à cette heure-là, Lauren était chez son ami Jay. Fait qu'on sait pas trop quoi faire de ce témoignage, mais bon, c'est quand même bon à savoir. On a même interviewé ce témoin plusieurs années plus tard, et il est sûr à 100% que la jeune fille qu'il a vue, c'était Lauren, mais il est plus sûr des heures. Fait que ça se peut que c'était pas à 3h38, mais bien genre à 4h30 du matin. Apparemment, il y a aussi un sans-abri qui aurait entendu une jeune femme crier à 4h35 dans le quartier où Lauren aurait disparu. Apparemment que le sans-abri était comme connu de la région, là, c'est un sans-abri qui était toujours là. Mais malheureusement, il est mort juste quelques jours après la disparition de Lauren, donc on ne pourra jamais avoir plus d'informations sur ce qu'il a entendu. Le 8 juin, la police a reçu une piste super spécifique que Lauren aurait été jetée dans une marina pas très loin. On a envoyé une équipe de plongeurs la même journée, mais malheureusement, il n'y a rien qui a été trouvé. C'est fou à quel point cette disparition a vraiment intéressé le public. Le 11 juin, une semaine après la disparition de Lauren, il y a America's Most Wanted qui a fait un segment sur la disparition de Lauren Spirer et ça a généré une centaine de tips, donc de pistes. En observant les caméras de surveillance de la résidence de Lauren, on voit un pick-up blanc passé deux fois dans la rue où Lauren a été vue pour la dernière fois, puis on le voit passer dans les mêmes heures que Lauren aurait disparu. Même que dans l'une des photos dans la boîte du pick-up, on voit comme une silhouette, comme si c'était une personne. Je vais vous montrer ça, regardez bien. Donc il y en a beaucoup qui ont dit « Ok, ça se peut très bien que ça soit Lauren ». On a réussi à retrouver le conducteur et après interrogation, il n'y a pas un suspect du tout, mais ça se peut très bien que Lauren ait été enlevée par une auto qui passait par là. Donc maintenant, on va faire un petit bilan des quelques heures avant la disparition de Lauren. Les dernières heures avant que Lauren disparaisse, elle était en compagnie de quatre hommes. Donc on a David Ron, Corey Rossman, Mike, Beth et Jay Rosenbaum. Et on va inclure dans le lot son petit ami Jesse Wolf. Et les cinq hommes pourraient comme être des suspects. Donc on va voir pourquoi oui et pourquoi non et on va les analyser un par un. Donc on va commencer par son petit ami Jesse Wolf parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire que c'est un suspect. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un suspect. En fait, ils ont texté toute la soirée et le téléphone de Jesse montrait qu'il était bien.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Chez lui, puis il a passé la soirée à regarder une game de basketball. D'ailleurs, c'est lui qui l'a reporté disparu dès le lendemain. Et quelqu'un de coupable fait pas ça. Là, on l'a vu avec plusieurs des histoires que j'ai racontées, donc c'est vraiment pas un suspect. Ensuite, on a David Run, le gars qui habite la même résidence que Lauren Spirer. Comme je vous ai dit, on l'a vu rentrer sur les caméras de surveillance à 00h30 et il est pas ressorti de son appartement avant 11h30 le lendemain matin. Il a même accepté de se soumettre à un test du polygraphe et à aucun moment dans le test, ça montrait qu'il mentait. Donc lui, David Run, on peut l'éliminer comme suspect. Okay. Maintenant, on a Corey Rossman, c'est lui qui s'est fait frapper au visage. Et apparemment, Corey et Lauren avaient un petit flirt, là, un petit quelque chose entre les deux. Même si Lauren était en couple, mais Corey avait vraiment un crush, un kick sur Lauren, il a trouvé de son goût. Et bon, Corey et Lauren avaient passé la soirée ensemble à boire. Corey a terminé la soirée en vomissant, sous mort, dans son lit. Et son colocataire, Mike Beth, a confirmé qu'à aucun moment de la soirée, Corey s'est relevé, fait que ça peut l'éliminer comme suspect. Mais aussi, la question intéressante ici, c'est qui aurait frappé Corey au visage. Apparemment, c'est un certain Zach qui l'aurait frappé au visage suite à une dispute et Corey aurait eu une légère commotion cérébrale suite au punch. Mais tout ça n'a rien à voir avec la disparition de Lauren.
I was not the last person with her. This is all I can say. I'm sorry, but I just hope that they find her as soon as possible, and I'm praying for her and her family.
Finalement, nous avons Jay qui est le suspect le plus intéressant parce que c'est le dernier à avoir vu Lauren, en fait. Et c'est complètement fou, ridicule et irresponsable d'avoir laissé Lauren rentrer seule chez elle. Parce qu'en plus de ça, rappelez-vous qu'elle n'avait pas son téléphone, ses clés, son sac à main et ses chaussures et elle était complètement saoule. C'est possible que Jay ne savait pas que Lauren n'avait pas ses chaussures, son téléphone, ses clés. Peut-être qu'il n'avait aucune idée de ça. Mais bon, juste le fait qu'il l'ait laissé partir seul, c'est un peu irresponsable et immature, mais peut-être que Jay était lui aussi complètement saoul, fait qu'il voyait pas comme la gravité des choses. Et bon, personne ne pouvait prévoir que Lauren allait disparaître. Dans mes recherches, j'ai lu qu'il y avait un gars qui aurait vu un vieux tweet de Jay, de ce Jay en question, qui avait écrit que la soirée de la disparition de Lauren, il avait reçu des amis du Michigan chez lui, fait qu'il avait passé la soirée avec un groupe d'amis qui n'allaient pas à l'université là-bas, fait que c'était comme des inconnus. Fait qu'on a vu ça, fait que ça dit « Ok, ben Jay, t'étais pas tout seul, ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui était impliqué dans la disparition de Lauren, mais le tweet a été supprimé par après. » Un truc intéressant que je veux vraiment pas faire du victim blaming, mais je veux juste comme le mentionner, parce que ça nous donne juste une autre perception de Lauren que les parents ignoraient, puis à chaque fois qu'une personne disparaît, c'est bon de regarder dans le passé de la victime pour voir si elle a pas eu des démêlés avec la justice. Donc encore là, je fais pas du victim blaming, je veux juste dire les faits. Apparemment, 9 mois avant de disparaître, Lauren aurait été arrêtée en état d'ébriété sur la voie publique. mais surtout pour consommation illégale parce qu'elle était mineure quand c'est arrivé. Donc, elle était seule sur la voie publique et mineure. Fait que ça peut arriver à n'importe qui de se faire arrêter pour ça, croyez-moi. Si t'es sous dans la rue, tu peux te faire arrêter. Mais le truc intéressant dans ça, c'est que quand la police a fouillé la chambre, mais le dortoir de Lauren, on a retrouvé un peu de cocaïne. Ce qui est pas rien, là. C'est quand même une drogue assez dure. Fait que Lauren consommait de la coke. Et aussi, rappelez-vous que Lauren avait des problèmes de cœur et la cocaïne et les problèmes de cœur ne font pas bon ménage. Fait qu'on se demande si cette fameuse soirée où Lauren était complètement saoule, la soirée de sa disparition, peut-être qu'elle aurait pris de la cocaïne ou elle aurait fait un overdose ou son cœur se serait arrêté. Et peut-être que les personnes sur place, soit Jay et soit ses amis du Michigan, si tout ça est vrai, se soient débarrassés du corps. Fait que ça serait quand même une théorie intéressante. Donc on se demande si Jay aurait été impliqué dans la disparition de Lauren et les policiers le considèrent quand même comme un suspect puisqu'ils ont fouillé son appartement en entier. Et par la suite, le FBI aurait même fouillé le dépotoir du coin pendant plus de 9 jours. Ils ont fouillé à travers 4100 tonnes de déchets. Mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé, ni dans l'appartement, ni dans le dépotoir. Tous les jeunes hommes impliqués là, dans la soirée de la disparition de Lauren, ils ont rencontré les parents de Lauren, même qui se sont soumis eux-mêmes à un polygraphe sans qu'on leur demande. Ils ont fourni leur ADN et le seul qui a jamais voulu rencontrer les parents de Lauren, c'était Corey. C'est quand même louche, mais ça veut rien dire. Moi, je pense que peut-être que Lauren aurait trompé son petit ami avec Corey puis ça le rendait tellement mal à l'aise, fait qu'il voulait pas rencontrer ses parents. On sait pas, ça fait pas de lui un coupable, mais c'est louche.
That punch or punches caused him a temporary memory loss.
Do you buy that?
No, I don't. I think it's a case of self-preservation.
He knows more than he's saying.
I'm not sure of anything, but what I do know is that there's been a complete lack of cooperation. And he was the person that spent the most time with Lauren in the last hours of her being seen.
Corey, Brian Ross from ABC News 2020. Can we talk to you for just a second about Lauren Spear?
Rossman has denied any involvement in Lauren's disappearance, but declined repeated requests to talk with 2020.
Corey, why won't you talk with Lauren's parents? They just want to ask you some questions about what happened that night. Anything you can say at all?
This property, you'll be safe.
Et si on revient à la théorie que Lauren ait fait un overdose et que les gars se soient débarrassés de son corps, c'est une théorie intéressante, oui, mais il ne faut pas oublier que dans toutes ces résidences, il y a des caméras de surveillance partout. Donc si ces gars se seraient débarrassés d'un corps, on l'aurait vu. Même s'ils l'avaient découpé en morceaux, je suis désolée pour l'image, ils l'auraient mis dans des sacs ou peu importe, on l'aurait vu. Donc je doute beaucoup qu'il soit responsable. Et pour Corey, dans l'état où il était, dans semi-commotion cérébrale et tellement saoul qu'il en a vomi, j'en doute fortement encore là, qui est élaboré comme un plan de se débarrasser d'un corps après un meurtre, tu sais, pour qu'il n'y ait aucune preuve, pour que tout soit clean après, ça prend... Faut vraiment que tu aies toutes tes capacités, fait que ça me surprendrait que Corey ait pu faire ça avec ses capacités affaiblies. En 2012, la récompense pour les informations sur la disparition de Lauren augmentée à 250 000 $, ce qui est énorme. Les parents de Corinne ont poursuivi Michael, Corey et Jay pour négligence criminelle parce qu'ils n'ont pas ramené Lauren chez elle cette soirée-là alors qu'elle était visiblement intoxiquée. Bien que ce soit très, très irresponsable de leur part, faut pas oublier que Corey était saoul, il dormait en commotion cérébrale. Michael, il a essayé, mais il ne connaissait pas Lauren. T'sais, il a essayé d'appeler Jay, il dit « Occupe-toi-en, moi je peux pas ». Il a essayé de retenir Lauren, il lui a proposé de dormir chez lui, mais elle voulait pas, puis elle connaît pas. Fait que, tu sais, bon, c'est pas vraiment sa faute, honnêtement. Et encore une fois, ben, Jay, peut-être qu'il était complètement saoul et il pouvait pas prévoir que Lauren allait disparaître. C'est une erreur, oui, mais ça fait pas de lui un meurtrier. Et bon, se faire poursuivre pour négligence criminelle, c'est difficile. On se rappelle que c'est tous des jeunes de 20 ans, là, tu sais. Finalement, il y a bien sûr la possibilité que Lauren se soit fait enlever par un inconnu, un tueur opportuniste qui aurait vu une jeune femme saoule, seule dans la rue à 4 h du matin et qui a juste décidé de la kidnapper. Et honnêtement, je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. En janvier 2016, le FBI a fait une fouille complète d'un homme qui habite à Martinsville, à 32 km de la ville où Lauren a disparu. L'homme en question avait été accusé d'avoir exposé ses parties à des femmes dans la rue, à plusieurs femmes. On aurait utilisé des chiens qui sentent l'odeur des cadavres. On a vraiment fait une grosse fouille et les policiers n'ont pas révélé ce qu'ils ont trouvé. Mais bon, c'était en 2016, on est en 2020. Je pense que s'ils avaient trouvé quelque chose, on le saurait. Sinon, un truc intéressant, il y a deux autres femmes qui ont disparu dans des circonstances similaires. Il y a Jill Berman qui a disparu aussi dans les résidences de l'Université d'Indiana, au même endroit que Lauren, le 31 mai 2000, donc ça fait, c'était 11 ans avant. Elle avait 19 ans au moment des faits et je veux faire une vidéo sur elle, genre juste sur sa disparition. Fait que je veux pas trop entrer dans les détails, mais les circonstances sont très similaires. En avril 2015, il y a une autre étudiante de l'Université de l'Indiana qui est disparue après avoir passé la soirée, elle aussi, au bar Kilroy's. Elle s'appelait Hannah Wilson. Son corps a été trouvé le lendemain et on a arrêté un homme du nom de Daniel Messol pour son meurtre. On a conclu que les deux affaires, soit celle de Hannah Wilson et celle de Lauren Spire, bien que très similaires, n'étaient pas reliées. Mais je me pose beaucoup de questions sur ce fameux Daniel Messol. Durant le procès de ce tueur, il y a une étudiante de l'Université de l'Indiana qui pense avoir été attaquée par lui en 2012, donc un an après la disparition de Lauren. Elle rentrait chez elle seule le soir de l'Halloween et il y a un homme qui s'est arrêté à côté d'elle, un homme qui était dans son 4x4. Et il ressemblait beaucoup à Messol. Il lui a offert d'aller la reconduire chez elle. La jeune femme a accepté. Et l'homme, au lieu de la reconduire jusqu'à sa résidence, il a pris un détour, genre, dans une autre direction. Ensuite, il a comme dézippé son pantalon et il a pris le visage de la fille puis il l'a comme, tu sais, forcé pour qu'elle lui fasse un blowjob, une fellation. Quand il a essayé de se débattre, l'homme, genre, frapper la tête de la fille contre son tableau de bord, son dashboard. Elle a réussi à s'enfuir en sautant de la voiture du suspect alors qu'elle était en marche et est allée porter plainte à la police qui n'ont jamais réussi à identifier le suspect. Et là, quand elle a vu Daniel Messol se faire arrêter, elle a dit « c'est lui qui m'avait violenté la dernière fois ». Fait que c'est quand même fou parce que cette fille-là, tu sais, Daniel Messol a été responsable du meurtre de Hannah Wilson et il pourrait très bien être impliqué dans d'autres histoires, fait que c'est fou, la fille elle a genre évité la mort là, de ça. Là. Il y a un ancien co-détenu qui a partagé sa cellule avec Messol et il dit que c'était vraiment un violeur sadique. Apparemment qu'il se déguisait en gardien de sécurité et se promenait sur le campus universitaire à la recherche de sa prochaine victime. C'est fou, ça fait tellement peur, tu sais. T'es seul en pleine nuit sur un campus, il y a un gardien de sécurité qui t'approche, tu vas y faire confiance, puis jamais tu vas douter que c'est lui le tueur, c'est lui l'homme dangereux. Donc il pourrait être très bien responsable dans la disparition de Lauren, mais les policiers l'ont exclu comme suspect. Je sais pas pourquoi, ils ont pas donné de raison, mais ils doivent avoir une bonne raison. Peut-être que cet homme avait un bon alibi, on sait pas, mais moi je me demande si cet homme serait pas un tueur en série, mais bon. T'sais, les policiers sont tous au courant de ces affaires-là, là, fait que je pense pas qu'ils soient impliqués, malheureusement. C'est vraiment intéressant cette affaire, mais il y a beaucoup d'hypothèses, de théories. C'est difficile de démêler le vrai du faux, mais ça reste irrésolu encore à l'heure qu'il est. Il y a un compte Twitter et une page Facebook dédiée à la disparition de Lauren Spire. Fait que je vais mettre le lien dans la barre d'infos, vous pouvez aller donner un petit like, suivre ces comptes-là, ça fait toujours du bien, j'imagine, pour la famille de voir qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes. Je sais que cette histoire elle a été énormément médiatisée, puis je pense pas que cette vidéo va aider tristement. Mais tu sais, même si une histoire est médiatisée, puis même si une histoire ne l'est pas, les deux, ça reste des victimes et la famille souffre depuis maintenant 9 ans. Fait que ça reste une histoire extrêmement triste. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.